D'accord. Alors, on est Sanhedrin Kouf Aleph Amoud Bet au milieu du Hamoud, où il est marqué Shlosha Melachim va Arba Hediotot. Trois rois sont cités dans le verset, dans le Tanakh, et Arba Hediotot, et quatre grands personnages, des personnages géants, mais que malheureusement, ils ont perdu le monde futur tellement ils ont fauté. Alors, quels sont les trois rois? Le premier roi qui n'a pas très clair en bas, c'est Rehoboam ben Nebat. Alors, la Gemara va nous expliquer ce monsieur, Rehoboam ben Nebat. Pourquoi il a perdu l'Olam Haba? Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Qui c'était cet homme? Pour connaître cet homme-là, il faut bien sûr lire le Tanakh, le Sefer Melachim. Son histoire est marquée dans Sefer Melachim. Mais évidemment, ça pose beaucoup de questions pour comprendre bien, et c'est ça que l'autre camarade est en train d'expliquer. Chaque mot est analysé dans cette histoire d'une façon profonde. Après, le camarade en comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Tano Rabbanan. Donc, le camarade nous dit d'abord Yerovam. Le mot Yerovam, son nom, ça signifie quoi? Sheriba Am. Il a abaissé, il a rendu moche Am le peuple. Il a détruit le peuple. Davar acher, une autre explication. Yerovam, si bien de la Shon, Shasa Meriva Ba'am. Il a provoqué une dispute dans le peuple. Le fait qu'il a commencé à faire Avodah Zarah, il y a des gens qui disent on n'a pas le droit de le faire, il y a des gens qui disent on a eu le droit de le faire, il y en a qui disent que c'est pas. Ça n'est pas Avodah Zarah, et il a provoqué des disputes terribles dans le peuple juif. Donc, c'est un roi. Normalement, le roi, il est là pour faire la paix au peuple, et lui, il a provoqué des disputes. Après, ça donnait une guerre civile. Dans ces guerres civiles, il y avait plus que 500 000 morts. C'est un homme qui a foutu la pagaille dans le peuple. D'avoir une autre pshat, Sha'asa Meriva ben Israël Avim Shebeshemaim. Il a provoqué la dispute entre les Juifs et Dieu. Donc le mot Yerovam, d'après la première explication, la Haïn fait, il expliquait deux fois. Yerovam, c'est Riba Am, il a abaissé le peuple. Le deuxième pshat, la Shon Yeriva, dispute Am, il a créé le dispute dont le peuple. D'après la troisième traduction, il a créé un dispute âme, le peuple contre Dieu. Alors, Ben Nevat, c'est le fils de Nevat. Donc, Nevat, c'est qui? C'est le père de Yerovam. Nevat, c'est quoi la traduction du mot Nevat? Ben Shenibet Veloraa. Un fils chez Nibet. C'est quoi Nibet? Regardez, mais la Shon Habata, observer. Il observait, son père était un observateur. C'est quoi un observateur? C'est un demi-prophète. Un homme qui a des visions. Son père avait des visions, mais pas des bonnes visions. Elle était trafiquée, sa vision. Veloraa, il n'a pas bien vu. Il croyait voir. Mais il n'a pas bien vu. Il croyait voir quoi? On verra. Tana, Yantosefta qui dit, Hu Nebat, Hu Micha, Hu Sheva ben Bichri. Il y a une seule personnage, il y a trois personnes dans le Tanakh, mais en vérité, c'est la même personne. C'est quoi la même personne? Hu Micha. Micha, c'est le fameux garçon à l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a sorti de la pierre. Moshe Rabbeinu, il est passé à côté d'une maison que les Juifs ils ont construite. Il a entendu un enfant pleurer. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quoi ça, cet enfant-là qui pleure? Il demandait à Hachem, c'est quoi cet enfant qui pleure? C'était un enfant que les Égyptiens, ils ont mis dans le mur. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils n'avaient pas assez de briques. Il fallait faire tant et tant de briques. Et avec ces briques, on fabriquait les maisons. Un juif qui ne terminait pas le nombre des briques, il prenait un enfant juif, il mettait à la brique, on mettait du ciment autour. Alors Moshe Rabbeinu est passé à côté. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Hein. une telle souffrance, pourquoi tu fais ça à ces enfants? Il a dit, sache que ces enfants-là, ils ne vont pas devenir bien. Je sais que c'est des rechaïm. Et s'ils resteront vivants, ils vont faire que des bêtises. Mieux vaut qu'ils quittent le monde avant de pécher. Si tu ne me crois pas, Hachem, il a dit à Moshe, si tu veux, tu peux faire sortir. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la pierre et il a sorti. Et ça, c'était le garçon Micha. Le Micha, il a grandi et après, il est parti d'Égypte avec Moshe. Il a traversé la mer et c'est lui après qui a donné le fameux papier d'Aleshor, monte taureau, qu'on a jeté dans la fournaise et c'est sorti le Hegel. Donc lui faisait partie des fabricants du Hegel. Et après, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'était l'homme qui a fait le premier maison d'Avodah Zarah. Bon, ce n'était pas très clair que c'est Avodah Zarah Mamash. La Torah nous raconte que c'était oui Avodah Zarah, mais pour les gens, ce n'était pas si clair que c'est Avodah Zarah. Parfois, entre Avodah Zarah et pas Avodah Zarah, on peut se tromper. On ne sait pas toujours exactement où est la frontière. Qu'est-ce qu'il est vie Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il n'est pas. En vérité, c'était vie Avodah Zarah, les gens ils pensaient que ce n'est pas Avodah Zarah. Parce que qui était le curé? Le curé était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. C'est Yonatan, le fils de Gershom, le fils de Moshe. Et Micha, donc Micha, c'était le président de cette maison, de Shevet Dan. Tout ça, c'est marqué dans Sefer Shoftim. À la fin de Sefer Shoftim, marqué en longueur, en largeur, l'histoire de Micha. Alors, la Gemara nous raconte que ce Micha, donc, il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et lui aussi, il est rentré en Eretz Israël. C'est lui qui a créé la première maison. Est-ce que c'est vraiment Micha ou c'est son fils ou son petit-fils? Bon, après peut-être. Alors on dit, lui c'est aussi Sheva ben Bichri. Qui c'est Sheva ben Bichri? Sheva ben Bichri, il a vécu à l'époque de David et Melech. À la fin de l'époque de David et Melech, il a fait une rébellion. Mais Sheva ben Bichri était de la tribu de Binyamin. Il voulait massacrer David et Melech. Et la Gemara nous dit, c'est aussi Yerovam ben Nevot. Seulement, il y a quelque chose qui tourne par an. Yerovam ben Nevot est de la tribu de Yosef. Et Sheva ben Bichri, il est de la tribu de Binyamin. Alors, ça ne peut pas être la même personne. Et à part ça, comment c'est possible la même personne, Micha, à l'époque de Moshe Rabbeinu? S'il est à l'époque de Moshe Rabbeinu, et Sheva ben Bichri, c'est à la fin de l'époque de David HaMelech. Donc, il a vécu quoi? 700 ans? Ce n'est pas exclu. Aria Selenu aussi, c'est existé. Mais même si tu vas dire que c'est extraordinaire, Sheva ben Bichri, il a plus que 700 ans. C'est bizarre. Mais disons que oui. Mais comment Sheva ben Bichri, qui est la tribu de Binyamin, peut être Yerovam ben Nevot, peut être la même personne que Nevot? Non, il peut être la même personne. Nevot, c'est des tribus de Yosef. Et la maille, c'est Pashut. Ce n'est pas la même personne. Mais ça veut dire, c'était la même Neshama. C'est Pashut, le Pshat, c'est le Gilgul. C'est ce personnage. La personne, Micha, qui était l'époque de Moshe, il a amené un esprit d'Avodah Zarah, de rébellion. Et cet esprit était capté par le père de Yerovam ben Nevot. Et c'était capté après par Sheva ben Bichri. Voilà, c'est ça le sens de la Gemara. C'est pas chaud, ça peut être autrement. Alors, Tana, la Braïta nous dit, « Hu Nevat, hu Micha, hu Sheva ben Bichri. » Nevat, qu'est-ce que c'est Nevat? C'est Nibet, qu'il a vu, il a observé comme un demi-prophète. Velora Amin n'a pas bien vu. Micha, pourquoi il s'appelait Micha? Shinit Machmech Babinyan. Il se fait écraser dans la construction. Uma Shemo, et quel est son nom? Sheva ben Bichri Shemo. J'appelle Sheva ben Bichri. Tano Rabbana. Maintenant, nous avons une braïta. Shlosha Niptu. Trois, ils ont observé. Veloraou, mais ils n'ont pas bien vu. Trois, ils ont vu des visions presque prophétiques, mais ils n'ont pas bien vu. Velohen Nevat, Vachitofel, Vitstagnine Paro. Monsieur Nevat, Monsieur Achitofel, elle est Atstagnine Paro, elle est visionnaire qui faisait l'horoscope, qui faisait l'astrologie de Paro. Nevat, Shra'a Esh, Shiotzaet Mahamato. Et la vue du feu qui sort de sa Brit Mila, ou savoir lui penser, Ioumalich, c'est un signe qui sera roi. Qu'est-ce que dire du feu qui sort de sa Brit Mila? On ne sait pas, c'est une allusion, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, il a vu du feu sortir, donc il s'est dit, c'est un signe qui sera le roi. Velohi, c'est faux, c'est pas ça. C'est Yoravam Hudenapik Minei, c'est il aura un fils qui sera le roi, pas lui il sera le roi. Alors, ça veut dire, Sheba ben Bichri, il s'est rébellé contre David, parce que Sheba ben Bichri voulait être le roi, parce que Sheba ben Bichri, c'est Nevat, et Nevat, il voyait quelque chose qui lui montrer qu'il sera roi, et se tromper, c'est son fils qui sera le roi. Achitophel, qu'est-ce qu'il y a avec Achitophel? Il voulait aussi être le roi. Achitophel, c'était le grand conseiller, stratège de la guerre, et chef du Sanhedrin, un grand ami de Chacham, Gadol Ador, en plus le meilleur stratège en militaire qui existe. Et à la fin de sa vie, il a fait un piège. Il a aidé Absalom. Il voulait qu'Absalom, il tue David Amelech. Et après, il espérait qu'Absalom sera aussi massacré pendant cette bagarre. Il a provoqué une bagarre entre Absalom et David. Bon, Absalom, il voulait de toute façon. Il a pris conseil chez Achitophel. Et Achitophel, il a chauffé Absalom. C'est une histoire très, très profonde pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait Absalom. Chaque histoire, elle est profonde là-bas dans la Tanakh. Très, très, très profond. Alors, en tout cas, Achitophel, il a chauffé Absalom qui se rebelle contre David. Et Achitophel, il espérait David et Absalom, les deux, ils vont se faire tuer. Et lui, il va tirer les marrons du feu et lui, il sera le roi. Pourquoi il espérait d'être roi? Achitophel, Rat, Sarat, César, Cholamato. Il a vu qu'il y a la lèpre sur sa Brit Mila. Savar, il a dit, Ihu Melech. Ça veut dire qu'il sera le roi. Quel rapport avec la choucroute? On croit que parce qu'il est un petit peu Metzora, pourquoi ce sera le roi? Je ne sais pas. L'autre, il est vu du feu. L'autre, il est vu du Tzarat. C'est des allusions. Velohi, mais en vérité, c'est pas lui qui sera le roi. Parce que Batsheba Bito Udenap Kamine Shlomo, ça veut dire Shlomo Hamelech, c'est un arrière-petit-fils d'Achitophel. Parce que Batsheba était la fille d'Eliam, qui était le petit-fils d'Achitophel. Et Batsheba, c'est la mère de Shlomo. Donc en vérité, il est vrai quelque chose d'Achitophel. Et parmi sa descendance, il se trouvera le roi. Mais ce n'est pas lui, Achitophel, qui sera le roi. Son arrière-petit-fils, Shlomo, il sera le roi. Donc, il a vu quelque chose qui est juste, mais pas dans la forme comme il a vu. Itztagnine Paro. Maintenant, nous avons les astrologues de Paro. Dama Rabbi Chama Rabbi Chanina. Rabbi Chama Rabbi Chanina dit, Maï dechtif, quel est le sens? Heima mei meriva. Voici les eaux de Meriva. C'est dans quel parsha? Donc, c'est la parsha de cette semaine. Heima mei Meriva. On dit que si on trouve dans la Gemara un pasouk de la parsha Tachevou, à son qu'on aurait cherché de le trouver, mais ça se présente tout seul. Un siman, un bon siman, Minashamayim, que l'étude est bien au ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Heima mei Meriva. Moshe, il a fauté avec de l'eau. Et le pasouk qui dit, Hey, ma mère Riva, ça c'est donc l'eau avec laquelle la dispute entre Hachem et Moshe s'est réalisée, qu'Hachem il a puni Moshe pour ça. Mais qu'est-ce que dire, Hey, ma, ce sont, ça c'est l'eau, c'est quoi ça? Comme s'ils auraient été énoncés quelque part. Alors ils étaient énoncés avec l'histoire des astrologues de Paro. Vetaou, mais eux ils avaient une erreur. Raou, ils ont vu chez Moshe, chez Israël, Maïm Houloké. Ils ont vu dans l'astrologie que quoi? Que ce qui va libérer les Juifs, il sera puni avec de l'eau. Alors, Amrou, ils ont dit, s'il sera puni avec de l'eau, il faut le liquider avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Chaque garçon qui va naître, on va le jeter dans le fleuve. Et ils ont vu, c'est juste, cet homme-là qui a libéré les Juifs, qui libérera les Juifs plus tard, Moshe, il sera en effet puni, il mourra à cause de l'histoire de l'eau. Vehen lo yedou, mais il ne savait pas que ce n'est pas ce Nil où le petit bébé Moshe va se noyer. Ce n'est pas ça. Mais Charlize qui aimait Amy Rival, ok, c'est à la fin de son 20 ans. Après, il est niftar avec le même rival. Heima même rival. Voici donc le même rival, c'est tour de dispute. Quel astrologue ils ont vu, mais ils ont mal vu. Umina l'an, maintenant on revient. Umina l'an doloati la alma daati. Donc, d'où on sait que Yerovam ne rêve pas dans le monde futur. Tout chachamim il saf. Ichtiv, car le texte dit, vaihi, bedavar azé, le chatat, et ça a été pour cette chose le chatat bet Yerovam, qu'on pêchait de la maison de Yerovam, ou le hakrit, ou le hashmit, mais alpni adema, pour le faire perdre, de le faire exterminer de la surface de la terre. Alors, il y a deux expressions, le hakrit ou le hashmit. Pourquoi il y en a deux expressions de perdre de Yerovam? Le hakrit bolamazé, il va disparaître de ce monde. Ou le Hashmid, ou la Mabba, il doit disparaître aussi dans l'autre monde. Malheureusement, cet homme-là, il a terminé tellement grave. Am Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Mipnima zaha Yerovam le Malchut. Quel était le mérite que Yerovam ben Nevot est devenu le roi? Qu'est-ce qu'il a fait de si spécial, de si exceptionnel pour devenir roi? Pour devenir roi, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel? Qu'est-ce que c'est dire de si exceptionnel? Il faut faire un acte de royauté. Qu'est-ce qu'il a fait comme geste qui montre que cet homme-là, c'est un, il a la classe d'être le roi. Il peut être le roi. Il est fait pour ça. Où on va? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial qu'on voit qu'il peut être le roi? Parce qu'il a fait un tochacha à Shlomo HaMelech. Il a fait des reproches à Shlomo HaMelech. Et les reproches qui étaient justifiés. Ça veut dire qu'il a bien vu. Il a vu ce Shlomo, il y a une faille. Une faille géniale, il a vu. Et il a dit à Shlomo, Monsieur le roi, vous faites une erreur. Je vous dis, vous faites une erreur. Et il avait raison, il fallait le dire à Shlomo ça. Et cette mitzvah de dire de Moussar à Shlomo, là, lui donner le droit d'être le roi. Parce qu'il a vu une faille chez Shlomo et lui, il ne l'aurait pas fait, soi-disant. Et pourquoi il était puni? Et à la fin, que quoi? Il est devenu encore pire que Shlomo. Parce que le reproche qu'il a fait à Shlomo, il l'a fait en public. Il aurait pu lui dire en privé, mais il l'a fait devant tout le monde. Parce que il pensait que c'est mieux de le faire en public pour que le public sait que Shlomo a fait une faute. Mais il pensait un petit peu derrière aussi de faire honte à Shlomo. Il cherche un peu la bagarre avec Shlomo. Peut-être si on a fait l'Hashem Shemaim, Mishum Chilul Hashem, parce qu'il considérait qu'il y a un Chilul Hashem dans ce que Shlomo a fait. Mais on peut dire ces choses-là aussi en privé. Et il a dit en public. Encore le texte dit, « Bezeh hadavar asher heirim yad b'melach Shlomo. » Voici la parole avec laquelle Heirim Yad, il s'est rébellé, il a offensé le roi Shlomo. Il a fait un discours. Qu'est-ce que le discours il a fait? Bana et Hamilo. Il a construit le Milo. Qu'est-ce que c'est le Milo? Autour de Rochelam, il y avait un mur. Sagar et Peretz, il a fermé la brèche, Ir David, Aviv, de la ville de David, son père. Alors, qu'est-ce que c'est comme histoire? David Amelech, il s'est installé à Yerushalayim et il a construit une mur autour de Yerushalayim. Bon, il y avait deux parties. Il y avait la partie de toute la ville de Yerushalayim. Après, il y avait Ir David, la ville de David. Ça veut dire là où il y avait son palais, où il y avait les ministres, etc. Après, il y avait toute la ville de Yerushalayim. Et après, l'endroit où il y aurait le Beth Amikdash aussi. Et David HaMelech, quand il a construit le mur, il a laissé une grande brèche. C'est-à-dire quoi une grande brèche? Quand les Juifs vont monter, quand tu auras le Beth Amikdash, ils vont monter au Shalaim, il y aura des centaines de milliers ou des millions de Juifs qui vont venir. Il faut que la porte du Shalaim sera assez large, qu'on puisse rentrer, qu'on puisse sortir. Il a fait un immense portail, immense portail. Mais Shlomo HaMelech, il a construit son palais à côté de cette porte. il a construit une maison pour la fille de Paro. La fille de Paro était pour lui très importante. Pourquoi? Parce qu'elle était justement la fille de Paro, l'Égypte. L'Égypte qui se fait noyer par Moshe Rabbeinu. Et lui voulait être bien avec le roi d'Égypte. Il voulait montrer que les Juifs peuvent être bien avec les Juifs peuvent être bien avec les Égyptiens. Il s'est marié avec cette princesse qui se convertit le Shem Shemaim, il dit le Rambam. Parce que le Gemara Yevamot, en vérité, elle n'avait pas besoin d'un mariage avec Shlomo pour l'argent, elle était riche. Mais elle a fait parce qu'elle voulait jouer Yiddishkeit. Après, à la fin, elle a fait des Averot. Mais au début, c'était très bien. Alors, il a construit un palais pour Madame, la fille de Paro. Et il voulait que les Juifs donnent du kavod à cette femme. Et quand il a construit ce palais spécial pour la fille de Paro, c'était pas pour elle, c'était aussi pour ses servantes, ses serviteurs. C'était tout un harem. Une maison importante avec beaucoup de gens, probablement sûrement beaucoup une ambassade égyptienne à Yerushalayim, il venait d'Égypte. Bon, l'Égypte c'était le pays très proche d'Eretz Israël, donc beaucoup de gens d'Égypte sont venus, ils sont venus écouter la Chokhma de Shlomo, comme vous avez dit le texte. Donc pour ces gens-là, ils sont venus habiter, probablement ils ont habité dans le palais de Paro, de la fille de Paro. Donc, c'est un palais spécialement. Shlomo HaMelech, il était dans son palais. Il y avait d'autres femmes aussi, mais ce palais spécial pour la fille de Paro, pour les diplomates, pour les sages, pour les chachamim qui viennent d'Égypte, etc. Mais à cause de ce palais, la porte d'entrée de Yerushalayim, elle était diminuée. Donc, Yerobam Nevot, il a dit, vous savez, Shlomo, vous ne comportez pas bien. Bana et Hamilo, vous avez construit donc ce mur. Sagar, vous avez fermé et Peretz, l'ouverture, Ir David, de la ville David, votre père. Amarlo, il lui a dit, David, Avicha, Paratz, Pratzot, Bechoma, ton père, il a fait des brèches dans le mur, et des chialos, Israël, la règle, afin que les Juifs facilement peuvent monter, aller à ta règle. Et toi, Gadarta Otam, tu les as fermés, que dès la sorte en Gari et la bas de Paro, afin de créer un service à la fille de Paro. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire la question est la royauté divine et la royauté terrestre. Dieu, c'est le roi. Et toi, Shlomo, tu es aussi un roi. Et maintenant, la royauté divine, elle est festoyée trois fois par année que tout le monde il vient au palais de Dieu, Beth Amikdash. Maintenant, toi, Shlomo, tu as aussi ton palais. On doit aussi te donner kavod. Mais je vois que le kavod pour ta femme est plus important que le kavod du Boré Olam. Pour que les gens, pour que la fille de Paro ait beaucoup de kavod, alors tu diminues l'ouverture des Juifs de monter à Yerushalayim. Donc le kavod du Bassar, Madame du Roi en chair et en sang, est plus important que le kavod d'Hachem. Ça, c'était la ta'ana que Yerobam Nevot s'adressait à Shlomo. Oumaï, et quel est le sens? Et voici comment il a levé la main contre le roi de Shlomo. Pshat Pashut, c'est ça la rébellion. De dire en public que vous vous comportez mal, ça c'est une mérida. Mais le texte dit Hashehirim Yad. Il a levé la main. Ça veut dire quoi? Il a levé la main. Une rébellion avec la main. Ça veut dire quoi? Amar Rav Nachman dit Shechalatz Tefilin Befanav, il a enlevé ses Tefilin devant Shlomo HaMelech. Quand il est prié à Minyan avec Shlomo, pourquoi il a prié à Minyan avec Shlomo? Parce qu'il était ministre. Le texte dit que Shlomo HaMelech, il a vu que Yerobam Nevot, c'est un génie. Et c'était un vrai génie. Il avait une force de gérer le peuple. Et il a marqué que Shlomo, il a nommé Yerobam Nevot pour prendre les impôts de la tribu de Yosef et de gérer toutes les affaires de la tribu de Yosef. Alors, c'était le plus génial de la tribu de Yosef. Il lui a donné une place très haute. Et quand ils ont prié ensemble, Beminyan aussi. Et quand ils ont terminé la tfila Shacharit, ou peut-être tfila de Mincha, je ne sais pas, c'est possible qu'il y avait toute la journée les tfilines ou la Shacharit. Alors, un élève, on n'enlève pas les tfilines devant le maître. Et le maître est aussi devant le roi. On n'enlève pas les tefillines devant le roi. Eh bien, lui, il a enlevé les tefillines devant le roi. Sous-entendrait, Je ne te considère pas comme roi. Tu n'es pas mon maître. Une rébellion. Il avait une chutzpah et je ne veux pas me soumettre à Shlomo. Amar Rav Nachman, gassu ta ruach shehaya bo b'Yerovam tardato min ha'olam. C'est l'orgueil qui était chez Yerovam, c'est là qu'il a fait perdre le monde. Il avait de l'orgueil et c'est ça qui était fatal pour lui. D'où on voit qu'il avait de l'orgueil? Je n'aime pas le texte, il dit Yerovam belibo. Yerovam me dit dans son cœur, attends maintenant, il t'achouve à Mamlacha le Bet David, la royauté va retourner dans la famille de David. Et de quoi retourner? Pour connaître cette Gemara, il faut connaître un chapitre, quelques chapitres là-bas. Le texte, la Gemara, après, va le rapporter, mais on va le comprendre ici, parce que sinon, on ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est que le texte dit que Hachem, il a dit, parce que Shlomo, il ne m'a pas écouté, et que ces femmes ont fait Avodah Zara, et qu'il a amené des chevaux d'Égypte, il avait trop de femmes, elles ont fait Avodah Zara, donc il ne m'a pas écouté, donc je vais arracher de Shlomo HaMelech une partie de la royauté. Il ne va plus régner sur les 12 tribus. Je vais lui enlever 10 tribus et je vais les laisser de régner à sa descendance que sur 2 tribus. Et 10 autres tribus, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, Kadosh Baruch Hu l'a dit. Après, il y avait un prophète qui s'appelait Achia. Il habitait autrefois à Shiloh. Shiloh, c'était la ville où il y avait les Mishkan pendant 365 ans. Et c'est Achia Shelini était un personnage très âgé. Il était jeune une fois, maintenant il était vieux. Autrefois, il était jeune. Et quand il était jeune, il a rencontré un monsieur. Comment il s'appelait ce monsieur? Pas plus et pas moins que Moshe Rabbeinu. Achia Shelini, il est né en Égypte. Et il était jeune, il est sorti avec Moshe Rabbeinu d'Égypte. Et il a vécu les 40 ans dans le désert, il est rentré avec Yeshua ben Nun, il connaissait Yeshua ben Nun, il connaissait Shimshon, il connaissait Gidon, avec tous les Chachamim, il connaissait Eliyahu Kohen, il connaissait Shmuel Hanavi, et il connaissait David HaMelech, Shlomo HaMelech. Voilà, Achia Shelini, la personne la plus âgée du peuple juif, avec Serach Bat Asher. Donc c'est un homme qui avait une connaissance de tout le judaïsme depuis l'origine. Et lui, il habitait autrefois à Shiloh, et maintenant il habitait à Yerushalayim. Bon, ou peut-être il habitait encore à Shiloh. On l'appelait Achio Hashiloni, qui vient de Shiloh. Et lui, il étudiait avec Yerovam ben Nevot. Et il était sa chavruta. Ah, on peut s'imaginer qu'un homme qui a la chavruta d'Achio Hashiloni, ça doit être un grand olam. Donc Yerovam ben Nevot, même il était un grand olam. Et à un moment, Achio Hashiloni, il a dit à Yerovam, tu sais, Shlomo il a fauté, Hachem il m'a dit qu'il va enlever la royauté. Et il te donne à toi tribu. Je te nomme roi sur les 10 tribus, tu vas régner sur le peuple juif. Et c'est Achia, il a nommé Yerovam ben Nevot. Et à cette époque, il était encore bien. Alors, après le texte est dit, maintenant on va commencer la Gemara. Voyons, mais Yerovam ben Libo. Yerovam, il a pris donc la royauté après la mort de Shlomo. Parce que quand Shlomo il a vu la chutzpah de Yerovam ben Nevot, qui lui a fait des reproches en public, à la Shlomo il a dit, il faut que je tue cet homme-là. Il se rébelle contre moi, il mérite la mort. Il voulait le tuer, Yerovam ben Nevot, il s'est tiré en Égypte. Il est parti en Égypte. Il est resté en Égypte, dans la maison royale d'ailleurs. C'est intéressant, la fille de Paro était mariée avec Shlomo, et lui, l'ennemi de Shlomo, il s'est persécuté par Shlomo, il s'est sauvé dans la palais royal de Paro. D'accord. Il est resté en Égypte jusqu'à après la mort de Shlomo. Une fois que Shlomo il est mort, le texte dit que Yerovam ben Nevot il est revenu en Eretz Israël. Et il a pris la tribu de Yosef, encore les autres tribus, et ils ont dit, il a dit, est-ce que vous voulez que je serai le roi? On veut que tu seras le roi. Mais Shlomo Melech, après Shlomo, il est mort. Les Juifs, ils devraient nommer le fils de Shlomo comme roi. Et donc, c'était Rehovam. Alors, les Juifs se sont réunis à Hebron pour nommer Rehovam. Et Rehovam, il est venu. Les Juifs, ils sont venus. Et les Juifs, ils ont dit à Rehovam, on voudrait bien que vous soyez le roi, mais d'abord, on veut vous poser une question. Est-ce que vous voulez nommer, est-ce que vous voulez demander plus des impôts ou moins des impôts? Est-ce que vous voulez être dur avec nous ou vous voulez être doux avec nous? Parce que votre père Shlomo était très dur, parce qu'il demandait beaucoup d'impôts, on travaillait pour le roi, parce qu'à l'époque de Shlomo, il y avait une richesse en Eretz Yisrael extraordinaire. Mais les Juifs, ils étaient obligés de travailler dur pour ça. C'était un moment exceptionnel, mais c'était très dur. Les Juifs les acceptaient parce que Shlomo était l'homme le plus sage du monde. Et c'était un kavod pour l'Israël exceptionnel. Ils ont dit, ça c'est votre père. À votre père, on était ses esclaves. Maintenant, il est mort. Vous, monsieur Rehovam, vous n'êtes pas votre père. On veut payer moins d'impôts. On veut moins travailler pour la royauté. Alors, il a dit, laissez-moi réfléchir 3 jours. Pendant les 3 jours, d'abord, il est parti chez les vieux. Il a dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Ils ont dit, ils ont raison. Le peuple a raison. Il faut que vous êtes plus doux pour lâcher un peu prise, pour laisser les Juifs un peu plus respirer, qu'ils payent moins d'impôts. Après, il a demandé les jeunes. Les jeunes, ils ont dit, il faut être encore plus dur avec le peuple. Après 3 jours, le peuple est revenu. Nous, monsieur le roi, qu'est-ce que vous avez décidé? Il a dit, je vais être plus dur que mon père, pas moins dur, mais plus dur. Alors, les Juifs ont dit, bon, si c'est comme ça, on ne vous reconnaît pas comme roi. Eh bien, que chacun, il part. Alors, ils sont partis et ils ont nommé Yerovam ben Nevat comme chef, comme roi. Alors, il est devenu le roi. Maintenant, on va continuer ici. Voyomer Yerovam ben Libo. Yerovam disait dans son cœur, attends maintenant, Tashuv hamamlacha le Ben David. J'ai peur que la royauté va revenir à la famille de David. Bon. Im yale ha'amaze lasot zvachim bebet Hashem b'Yerushalayim. Si les Juifs ils vont monter 3 fois par année au Beth Amidash, vont faire Pesach Shavuot Sukkot Beth Amidash, et bien, Shavle Bahamazé, elle a donné El Rechov HaMelech Yehuda. Le peuple va changer d'avis. Ils vont m'abandonner et ils vont devenir les esclaves de Rechovam, Varaguni, et ils vont me tuer. Pourquoi? Parce qu'ils vont me considérer que je me suis rebellé contre le roi. Ils vont tous accepter le roi de Yehuda. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut que je trouve une solution, que les Juifs ne montent pas aux règles. Et pourquoi il avait peur que tous les Juifs vont retourner à Rehobam? Quel est le problème? Si les Juifs ils vont monter à Yatarégel, c'est-à-dire si les 10 tribus vont aussi monter à Yerushalayim, alors moi, je serais plus reconnu comme roi. C'est que Rehobam. Pourquoi il s'imagine ça? Alors, Amar, la Gemara nous dit, mire, il y a une tradition. Normalement, dans l'Azara, on n'a pas le droit de s'asseoir. Personne n'a le droit de s'asseoir. Les Kohanim, ils sont toujours debout. On ne s'assoit pas. Il y a une personne qui a le droit de s'asseoir dans l'Azara. C'est qui? C'est un roi de la famille de David. Voyez, chef David, David était assis devant Dieu. La famille de David a le droit d'être assis devant Dieu. Alors, le peuple va bien observer que Rehobam sera assis dans l'Azara pendant la fête. Moi, je suis obligé d'être debout. C'est vrai. Qu'est-ce que le peuple va penser? Amalka va ha'avda. C'est Rehobam le roi et moi, je suis l'esclave. Alors, ils vont me prendre pour un esclave. Et lui, c'est le roi. Donc, on ne va plus me reconnaître comme roi. Ve'iyativna, si je m'assois aussi, alors je me rebelle contre le roi. Et Katlinli, ils vont me tuer. Vazlou Batrei, ils vont de nouveau suivre Rehovam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mia, tout de suite, il a dit, il faut que je trouve une solution pour que les Juifs ne montent pas à Yerushalayim pour aller à Teregel. Il faut que je fasse un deuxième Beth Amikdash. Il faut que je remplace le Beth Amikdash avec un autre sorte de Beth Amikdash. Miad le texte dit va yivatz Amelech. Le roi il s'est réfléchi, il a pris conseil, qu'il a pris conseil. Viashnei eglezahav. Il a fabriqué 2 veaux en or. Voyomar alehem. Il a dit aux Juifs, Rav lechem me'alot Yerushalayim. Il suffit que vous montez Yerushalayim. Hine Elohecha Israël, va citer Dieu, Asher Elucha Meras Israël, qui t'ont monté d'Égypte, va yasemita echad be Bet-El, Bet-Echad Nathan Bedan. Un, il est mis à Bet-El au nord d'Erz Israël, l'autre, il a mis au sud, un, il a mis de Bet-El, à côté de Jérusalem, et un, il a mis à Dan au nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris deux veaux et il a dit, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. C'est quoi? Il a répété encore une fois l'histoire du veau d'or. Et puis là, il est comme le farci me l'explique. C'est un lien profond que lui, il a dit, je suis de la tribu de Yosef. Et le symbole de Yosef, c'est le taureau. Rorsoro Hadarlo. Alors, le Beth Amikdash est fait pour la famille de David. C'est vrai. Yerushalayim à la Shrina. Et on fait des korbanot. Mais du moment que moi je suis nommé sur 10 tribus, j'ai aussi le droit de faire un Beth Amikdash. Pour Dieu, pas pour Abou Zara, pour Dieu. Et le symbole, quel symbole que je peux faire? Au Beth Amikdash, il y a l'Aaron HaKodesh de Moshe. Il y a les louchot. Ça, j'ai pas. Je ne veux pas lui voler. Ça leur appartient. Mais au-dessus du Kaporet, il y a des anges. Il y a 2 kérouvim. Eh bien, ces kérouvim sont en or. Il représente quoi? Il représente Kevechol HaKadosh Baruch Hu. Et Yaakov Avinu, ça représente quelque chose. Yaakov Avinu. Et moi, mon arrière-grand-père, c'était Yosef. Il y a Yaakov et il y a Yosef. Là, comme on nous raconte, Yaakov, c'est le grand visage, Yosef, c'est le petit visage. Il a dit, moi, j'ai quelque chose qui représente, comme les Kérouvim au Kodesh et Kodashim, je représente des veaux en or, que je représente Yosef. Nous suivons les enseignements de Yosef. Parce que pourquoi moi j'ai reçu la royauté? Parce que je suis de la tribu de Yosef. Il y a la Malchoute de David, Malchoute de Yosef, c'est des sujets profonds. Qu'est-ce que ces 2 sortes de royaumes, Malchoute de Juda, Malchoute de Yosef? Yosef était déjà roi en Égypte. Alors donc ça existe maintenant, une Malchoute dans le peuple juif. Donc il y a 2 Malchouyot, il faut 2 Beth Amikdash. Donc je fais un Beth Amikdash et je fais une représentation, c'est Boudot. Et selon ce que lui disait, ce n'était pas Boudazara. Je ne veux pas Abou Dazara, c'est le symbole de la tribu de Yosef. Yosef représente quelque chose dans la philosophie, dans la psychologie, dans la servir Hachem comme Yosef, il servait Hachem. Il faut arrêter Gadol, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, expliquer qu'est-ce que c'est le Malchut de Yosef et quel est le truc de Yosef. En tout cas, Yosef, il y a quelque chose, on sert Hachem et notre chef, il est Yosef HaTzadik. Et donc, il amène ce symbole de Yosef dedans. Il a dit, ça, c'est pour servir Hachem. Après le passouk, il dit que malheureusement, c'est devenu un Avodah Zarah. Mais lui, il ne l'a pas fait pour faire Avodah Zarah. Il a fait un Beth Amikdash. On a le droit de faire un deuxième Beth Amikdash. Donc, voyaz, shnei eglizahav. Combien des années il veut monter Yerushalayim? Shlomamelech, il a régné 40 ans. Les premiers 4 ans, c'était pour construire le Beth Amikdash, 4 ans, et après 36 ans. Depuis 36 ans, les Juifs sont montés à Yerushalayim. Maintenant, il y a un nouveau Rava. Maintenant, nous, les 10 tribus, on va aller une en or et une à Beth-El. C'est ton Dieu. C'est pas ton Dieu. Le Dieu, c'est le Dieu au ciel. Mais lui, c'est Yosef. Yosef, c'est le tzaddik qui représente que Veyachol, grâce à Yosef, les Juifs sont sortis d'Égypte. C'est marqué, grâce à Yosef, les Juifs, ils ont passé la mer. C'est la même histoire d'Ekel, était aussi quelque chose comme ça. L'Ekel, ce n'est pas comme les gens ici imaginent, c'est un Avodah Zarah, comme dit le Ramban. C'est les Juifs qui croyaient en Dieu et croyaient que Dieu les a sortis. C'est un truc spécial, cette histoire de veau d'or. Ce n'est pas comme les gens simples imaginent. Natan Mai mais il a pris un conseil, comment réussir. Comment il a réussi que les Juifs l'ont suivi. Mais il y a quand même un goût d'Avodah Zarah dedans. Il a réussi à amener les Juifs vers quelque chose qui est Avodah Zarah. Les Juifs étaient aveugles, ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose qui tourne par an. Alors là, il utilisait une archiruse. C'est pour ça qu'il était un génie, cet homme. Maï Veibahatz, quel était son conseil qu'il a fait? Amar Yuda, Choshiv Racha et Tzadik. Alors, il a appris 2 hommes, un type bien, un type moins bien. Voilà, vous êtes une groupe. Il les a installés. Amar lui, il leur a dit, Khatmi tu al kol Davidna. Moi, je suis maintenant nommé roi, par Achéa. Je voudrais que vous me reconnaissiez comme roi. Signez-moi un papier que tout ce que je demanderai de faire, vous allez faire. Amour, ils ont dit, Hin. Oui, on accepte, bien sûr. Il faut savoir que Yeromenot est un gadolador. Oui, le gadolador nous demande de le suivre, et on signe. Amar le Hou, il leur a dit, Malkabeine le Meheve. Je voudrais être le roi. Amrulehin, le gadolador, tu es le roi, on accepte qu'il sera le roi. Kol d'amine le roi avditu. Mais si je suis le roi, tout ce que je vous demande, vous allez faire. Amour les gens, oui, en fait. Alors il a dit, même si je vous demande de faire Avodah Zara, vous allez me suivre. Amal et Tzadik, le juif bien, il a dit, ah, je ne vous écoute pas, monsieur. Si vous me demandez de faire Avodah Zara, je ne vais pas vous écouter. Amar les Racha, alors l'autre juif qui était voyou, il a dit, le Tzadik, tu crois vraiment que Yeroban va faire Avodah Zara? Dis-moi, t'es tombé sur la tête. Tu crois que lui veut qu'on fasse Avodah Zarah? Elle le mincine ou de Kabaye? C'est seulement une façon, il veut nous tester si on va le suivre aveuglement. Il cablite le même, si on accepte ce qu'il dit, mais il ne va jamais faire Avodah Zarah. Tu as des soupçons qu'il fait Avodah Zarah, ils ne vont pas faire Avodah Zarah. C'est une façon de parler. Donc l'autre, il a signé. Donc les gens, ils ont signé. On va suivre ce monsieur, même s'il fait Avodah Zarah, même s'il vous demande de faire Avodah Zarah. Et soi-disant, avec, de toute façon, j'utiliserai jamais ce joker. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés ce genre de magouille. Il existe, par exemple, un homme, il est garant pour une dette. Le voyez, il y a quelqu'un qui dit, monsieur, je dois emprunter à la banque 200 000 euros. Je vous demande, est-ce que vous pouvez être garant? Il demande à son oncle, son cousin, son neveu, un grand copain, a aidé 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Il dit, mais je ne vais jamais utiliser, c'est seulement ma façon de parler pour recevoir le prêt, mais tu sais très bien que je ne vais jamais te demander. Je te demande une signature, mais shalom, je ne vais pas te faire un coup de quoi payer pour moi 200 000 euros. Demande, tu sais, tu comprends, la banque, ils veulent un truc, alors je te demande une signature, mais jamais je vais te le faire, tu me soupçons que je vais le faire. Alors les gens, ils signent. Après, les gens, ils ne payent pas la dette. On vient chez l'autre, ils payent 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million. Combien de gens, ils se trouvaient sur la paille, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur business, tout pour une signature. Ils ont fait avec une timimote, ils se sont fait embrouiller par un grand-père, par un oncle, par un cousin, par un homme à qui on devait faire Akaratatov, ou toutes sortes, toutes sortes. Ils ont signé Betmimut et ça leur a coûté après tout son argent. Ça existe beaucoup d'histoires comme ça. Et bien ici, il s'agit de Olam Abba. Ici, il leur a dit, suivez-moi pour avoir des kachavim, mais je ne vais jamais le demander. Ce n'est pas lui, c'est l'autre. Il dit, mais jamais, quand il demande ça, c'est une façon de dire. Et ils ont signé. Donc, il a ça, c'est avec deux personnes. Mais après, il n'a pas fait avec ces deux. Il a fait avec quatre, avec six, avec huit, avec dix. Il a fait ça avec tous les juifs, un après l'autre. Tout le monde a signé, on va vous suivre, on va vous suivre, même si c'est Avodah Zarah. Et bien sûr, le sens, il n'est pas Avodah Zarah. Il savait Avodah Zarah pas. Quelque chose qui ressemble à Avodah Zarah. Signez-moi que vous allez me suivre, même si c'est quelque chose qui à vos yeux ressemble comme si c'était Avodah Zarah. Même si vous pensez que c'est Avodah Zarah, faites-moi confiance. Moi, je suis un Gaon Olam, un grand Tamid Chacham. Je ne vais jamais faire quelque chose qu'on peut dire Avodah Zarah. Mais signez-moi quand même. Alors, ils ont signé. Vav, Achi Ashiloni, Ta'av, Chatam. Même Achi Ashiloni se trompait, il a signé. Ça veut dire quoi? Il a fait le même coup à Achi Ashiloni. Il est venu chez Achi Ashiloni, celui à qui il avait nommé le prophète, qu'il avait nommé comme roi. Il a dit, monsieur le prophète, vous dites que je serai roi. Oui, alors je voudrais que si j'ordonne quelque chose, on m'écoute. Vous allez m'écouter si j'ordonne quelque chose? Il a dit, oui, si tu es le roi, je serai obligé d'écouter. Signez-moi, monsieur Achia, que vous allez me suivre. Oui, je te signe. Mais signez-moi, s'il vous plaît, que je vais, même si je demande Avodah Zarah. Et Achia Sheni se dit, mais il ne va pas faire Avodah Zarah, c'est monsieur, il est n'importe quoi. Pourquoi il me demande ça? C'est une façon de parler, comme avant. Il a dit, c'est une façon de parler. Achia Sheni, il se trompait. Un prophète, il a fait une tragédie et il a signé, je vais suivre Yoram Nevot. Même s'il demande de faire Avodah Zarah. Parce que je sais qu'il ne va jamais le demander. Il est aussi tombé dans le panneau. D'où on sait qu'Achi Ashiloni, il se trompait. Daha Yehu Tzadik Rabbehave. Yehu était un grand tzadik. Yehu. Qui c'est Yehu? C'est un monsieur. Il s'appelait Yehu Ben Nimshi. À quelle époque il a vécu? Il a vécu 200-300 années après Yerovam Ben Nevot. Qui c'est ce monsieur Yehu? Alors, Yehu ben Nimshi était un roi qui était nommé par le prophète Elisha. Il était après Achav. Achav, le grand pécheur devant le Seigneur. Achav, le grand rachat. Il avait un fils qui était rachat, un petit-fils qui était rachat, arrière-petit-fils qui était rachat. Après, toute cette famille, elle se fait massacrer. Comme il a dit le prophète Eliaou. Eliaou, il avait promis à Achav, parce que tu as fait trébucher le peuple juif, ta famille, tes ministres, toute ta famille va être massacrée. Bientôt, le moment va être massacré. Très bien, comme ça, Eliaou l'a dit. À ce moment-là, Achav, il a fait un peu de tchouva à ce moment. D'accord. Donc, Eliaou, il est disparu, et son élève, Elisha, est devenu le prophète. Elisha, il avait un élève qui s'appelait Jonas. Jonas la baleine, tout le monde connaît Jonas le prophète. Alors, un jour, Hachem, il téléphone Elisha. Le moment il est venu que la famille d'Achav doit être assassinée. Donc Elisha, il a donné de l'huile à Yona. Il a dit, tu vas à l'armée. Il y a là-bas le chef d'armée, il s'appelait Yobé Nimshi, un grand tzaddik. Et tu vas le nommer comme roi et tu vas lui donner l'ordre de massacrer la famille d'Achav. Donc Yona, il est parti. Il est arrivé à l'armée. Les soldats, ils ont dit, vous cherchez qui, monsieur? Je cherche votre chef d'armée. Il est rentré dans la tente. Il a dit, monsieur, qui c'est le chef d'armée ici? Moi, vous étiez au Benimchi? Oui, je vais vous parler en cachette. Il dit, bon, d'accord, alors je peux parler ici. Non, 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 je dois parler en cachette avec vous. Il est rentré dans la chambre et au Benimchi, il a dit, je suis délégué de prophète Elisha. Il verse sur sa tête, Dieu vous a nommé le roi. Et maintenant, il vous demande de massacrer la famille d'Achav. Il a dit ça, et Yona, il est parti. Et Yehu, il est sorti, et les soldats, ils disent à Yehu, qu'est-ce qu'il est venu faire ce type-là, ce type bizarre-là, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il dit, moi, il est bizarre, comme vous avez dit. Il dit, non, 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 il y a un truc là derrière, là, c'est pas un bizarre, c'est un type. Ils ont bien vu que c'était l'élève d'Elisha Navi, ils ont compris, c'est un truc spécial, un haram spécial. Il dit, non, 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 ne racontez pas que c'est un fou. Alors, il est dit, bon, cet homme-là, il vient en nom d'Elisha Navi, maintenant mes rois, et on nous devons massacrer la famille d'Achav. Et pas seulement la famille d'Achav, on doit massacrer tous les curés d'idolâtrie. Alors, ils ont dit d'accord. Et il s'est mis à son travail. Yehu, il a mobilisé son armée, il était le chef d'armée de toute façon, et ils ont massacré la famille d'Achav, tout le monde. Et après, il a dit, il faut que je tue tous les curés de Baal. Alors, les curés de Baal, il y a deux sortes d'Avodazara. Il y avait l'Avodazara de Yerovam Benavot. Cela, on n'a pas enlevé. Jamais quelqu'un est arrivé à enlever ça parce que les gens considéraient que ce n'est pas Avodazara. Mais Baal, c'est un Avodazara qui est venu du Liban. Ça, c'est un vrai grossièreté Avodazara. Ça, c'était importé par Isabel, la femme des Achav. Les Juifs, ils ne faisaient pas le Baal. Ils ne connaissaient pas ça. Et ça, c'était une grossièreté importée par Isabel. Il faut éliminer ça. Il faut éliminer tous les curés. Alors, comment il a éliminé les curés? Alors, il a voulu piéger le peuple. Donc, il a dit, Achav, il a fait Avodazara au Baal, moi, je ferai encore plus. Je voudrais organiser que tous les gens, tous les curés, ils viennent dans la maison, dans une grande fête, et on va faire Avodazara là-bas au Baal. Et tous les curés sont venus. Tous les curés sont venus, et Yehu il a dit, regardez bien qu'il n'y a aucun type bien parmi eux, et c'est tous de Rechaïm ici, ils ont bien regardé. Alors il leur a donné ils ont pris les vêtements d'idolâtrie, ils ont voulu faire des corbanotes et ils ont donné les simanes, vous attrapez et vous les égorgez tous. Donc, ils étaient 80, je pense, 80 ou quelque chose comme ça. Ils ont massacré tous les curés. Alors, fini, il n'y avait plus d'un Ovdei Baal, il n'existait plus dans le peuple juif. Ça, c'est Yehu. Et après Yehu, aussi la faute. Yehu, il était tzaddik et à la fin, lui-même, il a fait un vote de Zara. Maintenant, la Gemara nous raconte Achia Shiloni, il avait signé de suivre Yerovam Benavot, même s'il fait Avodazara. Et ce papier est tombé dans la main de Yehu Ben Nimshi. Il était un grand tzaddik au début. Généralement, le texte il dit, Vayom Hashem El Yehu, Dieu dit à Yehu, Yana Sharitivot Ala Asot, Hayashar Benai, parce que tu as fait ce qui était droit à mes yeux, tout ce que j'ai pour le faire, tu as fait le Bet Achav à la maison d'Achav. Il y aura quatre générations. Toi, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, il va être sur le trône juif. וכתיב plus tard il est marqué ויהו לא שמר ללחם בתורת השם אלוקי ישראל. Et on n'a pas écouté, il n'a pas suivi de faire la Torah de Dieu, bechol levavo, tout son cœur. Lo sar michal chatat Yerovam asher hechtit Israël. Il n'a pas quitté le péché de Yerovam, ça veut dire il a aussi fait des korbanot dans les Beth Amikdash, qui était un besoin avodah zarah de Yerovam. Mai gar malei, comment c'est possible qu'il a fauté? Lui, il a massacré le Ovde Habaal, l'avodah zarah, que Isabel il a apporté, et donc il était tzaddik. Et comment ça se fait que le avodah zarah de Yerovam, il n'a pas enlevé? Ça, il a gardé, il a continué à faire avodah zarah. Comment ça se fait? Mai gar malei, qu'est-ce qu'il a provoqué que Yehu, il a fait l'avodah zarah de Yerovam? Amar Abaye, Abaye le dit Brit Kruta Nasfataim, il y a une alliance fixée aux lèvres. C'est quoi une alliance fixée aux lèvres? Quand un homme il prononce avec sa bouche quelque chose de pas bon, malheureusement, il attire avec ça les choses pas bonnes, malheureusement. C'est un homme qui dit sur lui-même des choses pas bien, malheureusement, ça laisse des traces. Je n'ai pas, c'est marqué Achav Avad Haba Al Ma'at, Yehu Yavdenu Harbe. Quand il a fait la publication, de quoi? Il voulait réunir tous les Ovdei Habaal, donc pour faire ruser, pour pas que les gens y comprennent qu'en vérité il veut les tuer, il a publié Achav Avad Habaal Mat, Achav il a servi au Baal un peu, Yehu Avdeno Harbe, et Yehu va encore plus servir. Donc il a publié que lui c'est un idolâtre. Mais en vérité, sa kavana n'était pas ça. Kavana a été de réunir l'Ovdei Habaal pour les massacrer, ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais il a prononcé une ruse que Yehu va servir idolâtrie. Et parce qu'il a dit que Yehu va faire servir idolâtrie, ça laissait des traces. Et à la fin, il a fait l'idolâtrie. Il n'aurait pas dû dire ça. Un homme ne doit jamais dire « je vais faire une faute ». Il ne faut jamais dire qu'il va faire Avodah Zarah, qu'il va faire un Avera. Il ne faut pas dire ça. Ni qu'il arrive du mal. Un homme ne doit pas dire « voilà, il va arriver cet accident. » Il ne faut pas dire ça ni sur lui, ni sur les autres. Il ne faut pas dire sur des juifs qui vont fauter. Il ne faut pas dire sur les juifs qu'il arrive du mal. Il ne faut pas dire sur soi-même qu'il arrive du mal, ni qu'il va faire. Il ne faut pas parler mal. Il faut toujours habituer la bouche de parler bien. Toujours parler bien, pas parler mal, ni souhaiter quelque chose de mal, ni dans la punition de Gashmi, et ni dans l'Avera. Donc ça, c'était la faute de Yehu, c'est pour ça qu'il a fauté. Ça, c'est le pshat d'Abaye. Mais Rav Amar, Chotamo shel Achia Hashiloni, Ra'aveta. Il a vu le tampon, la signature d'Achia Hashiloni. Ça veut dire quoi? Quand il est arrivé dans la maison de Yerovam ben Nevat, les deux églises que Yerovam ben Nevat a installées 3 siècles avant, que lui considérait comme Beth Amikdash, Yerovam ben Nevat, il a dit c'est pour Dieu. Il est arrivé là-bas. Et ça ressemblait quand même à Avodah Zarah. Alors, il est arrivé dans cette maison. On lui a dit, il ne faut pas détruire M. Yehu, parce que c'est le prophète qui est d'accord avec ça. Il dit, quel prophète? Eh bien, Achia Shiloni, quand il a donné à la royauté à Yerovam ben Nevat, il a signé un papier, même si ce monsieur fait quelque chose qui vous ressemble comme Avodah Zarah, suivez-le. Et il y avait la signature de Achia. Ça, c'est la signature de Achia, Shiloni. Il a dit que ce que Yerovam ben Nevat il fait, même si ça vous semble à Avodah Zarah, vous devez le suivre. Nous, Achia Shiloni, je ne peux pas trop lire sur lui. Achia Shiloni connaissait Moshe Rabbeinu. Il sait mieux qu'est-ce que c'est Avodah Zarah, qu'est-ce que ce n'est pas. Si Achia Shiloni dit qu'il faut le suivre, je le suis. Et donc, il est tombé dans le panneau. Et lui aussi, il a fait la Avera de Yerovam ben Nevat. Et c'était considéré comme punition. Après, Kadosh Baruch Hu dit, parce que tu as fait l'Avodah Zarah de Yerovam, toi aussi, tu vas disparaître, comme tu as fait disparaître la famille d'Achav, malheureusement, toi aussi, tu vas faire disparaître. Et Achia Shiloni, il a fait cette erreur de signer ce papier. On ne signe pas des choses comme ça. Oui, je vais faire l'Avodah Zarah, je vais vous suivre, même si vous me demandez de faire un Avera. Il ne va jamais me demander. On ne réfléchit pas comme ça, jamais il va me demander. Il ne faut pas faire confiance. Quelque chose contre. Oui.
C'est comme quand il y a marqué sur des sites 0 € gratuit, mettez votre carte bleue.
Ah oui, ah mon fils, tu es intelligent, tu fais bien. Chacun qui te demande sur un compte, mettez votre argent, mettez votre compte banque, on veut vous apporter de l'argent. Très bien dit. Il existe beaucoup des faux sites qui vous disent, vous avez gagné 100 euros, mettez votre compte en banque, on va mettre sur votre compte 100 euros. En vérité, c'est pour vous enlever l'argent que vous avez. Exactement, il ne faut pas tomber dans les tricheries. Ah, tu as bien vu. Il faut se méfier de ça. Il y a toutes sortes, je ne sais pas, piercing, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Piercing, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ils veulent capter l'argent des gens et ils font semblant qu'ils veulent te donner de l'argent. En vérité, c'est le contraire. Tu as bien dit, il ne faut pas tomber dans ce panneau.